Bible de l'humanité, 1 l'Inde, chapitre 6, rédemption de la nature. On ne se sauve pas seul. L'homme ne mérite son salut que par le salut de tous. L'animal a aussi son droit devant Dieu. L'animal, sombre mystère, monde immense de rêves et de douleurs muettes. Mais des signes trop visibles expriment ses douleurs au défaut de langage. Toute la nature proteste contre la barbarie de l'homme qui méconnaît, avilit, qui torture son frère inférieur. Ce mot que j'avais écrit en 1846 m'est revenu bien souvent. Cette année, 1863, en octobre, près d'une mer solitaire, dans les dernières heures de nuit, quand le vent, le flot se taisait, j'entendais l'humble voix de nos animaux domestiques. Du plus bas de la maison et des profondeurs obscures, ces voix de captivité m'arrivaient, faibles, plaintives, et me pénétraient de mélancolie. Impression non de vague sensibilité, mais sérieuse et positive. Plus on avance, plus on prend le sens vrai des réalités, plus on entend des choses simples, mais bien graves, que l'entraînement de la vie faisait négliger. La vie, la mort, le meurtre quotidien qu'implique la nourriture animale, ces durs et amers problèmes se posaient devant mon esprit. Misérable contradiction! La faible nature du Nord, dans ses végétaux impuissants, ne refait pas notre énergie, et nous ne pouvons fournir au travail, ce premier devoir, que par la nourriture sanglante, la mort, l'oubli de la pitié. Espérons un autre globe où les basses, les cruelles fatalités de celui-ci pourront nous être épargnées. La pitié a eu dans l'Inde les effets de la sagesse. Elle a fait de la conservation, du salut de tous les êtres, un devoir religieux. Et elle en a été payée. Elle y a gagné l'éternelle jeunesse. À travers tous les désastres, la vie animale respectée, chérie, multipliée, surabondante, lui donne les renouvellements d'une intarissable fécondité. On ne peut éviter la mort ni pour soi, ni pour les autres. Mais la pitié veut du moins que, si ces créatures voient leur vie abrégée, nul ne meurt sans avoir vécu, sans avoir aimé, transmis par l'amour sa petite âme, accompli ce doux devoir qu'impose la tendresse de Dieu, d'avoir eu le moment divin. De là le charmant début, vraiment pieux, du Ramayana, ce bel élan de Valmiki sur la mort du pauvre Héron. Ô chasseur, puisse ton âme n'être jamais glorifiée dans toutes les vies à venir, puisque tu frappas cet oiseau au moment sacré de l'amour. Il dit, pleure, ses gémissements au flux, reflux de son cœur, mesurés, deviennent rythmiques, et voilà la poésie. Le merveilleux poème commence. Ce fleuve immense d'harmonie, de lumière et de joie divine, le plus grand qui coula jamais, il part de cette petite source. Un soupir et une larme. Vraie bénédiction du génie. Tandis que dans notre Occident, les plus secs et les plus stériles font les fiers devant la nature. Le génie indien, le plus riche et le plus fécond de tous, n'a connu ni petit ni grand, a généreusement embrassé l'universelle fraternité jusqu'à la communauté d'âmes. Vous allez dire, superstition, cette bonté excessive pour l'animal vient du dogme de la transmigration des âmes. Le contraire est bien plus vrai. C'est parce que cette race délicate et pénétrante sentit, aima l'âme, même en ses formes inférieures, dans les faibles et les simples. C'est pour cela qu'elle fit son dogme de la transmigration. La foi n'a pas fait le cœur, mais le cœur a fait la foi. Quelle que soit la foi, le cœur, L'Inde ne peut échapper tout à fait à cette contradiction du monde. Le frugivore, le brahmane, reste faible, donc a besoin du guerrier pour le protéger. Et le guerrier n'a la force qu'en participant, au moins quelque peu, à la nourriture sanglante, aux passions qu'entraîne ce régime après lui. De là la chute et le mal, de là la crise qui fait le nœud du Ramayana. Il est sorti de la pitié, ce poème, et il a son débat, son drame, dans un oubli de la pitié. Le plus compatissant des êtres, la femme, est tentée, écartée de sa bonté naturelle par je ne sais quel mauvais songe, une envie, un petit désir. Ici, ce n'est pas gourmandise. L'Ève indienne laisse pendre aux arbres tous les fruits du paradis. Son paradis est l'amour, et elle ne convoite autre chose. Du reste, elle n'est que douceur, innocence timide. Et pourtant, par un changement fort inattendu, c'est elle qui prend le vertige, qui devient un moment cruel. Elle voit passer une brillante, une délicieuse gazelle dont le poil a l'éclat de l'or. « Oh, je la veux, je la veux » Qu'a-t-elle donc? Et quel caprice! Ce n'est pas le goût du sang. Serait-ce le doux éclat, doux, sauvage, de la fourrure où son visage charmant paraîtrait plus fin encore? Non, dans un pareil climat, cette parure accablerait. Elle pense à autre chose et le dit, mais à moitié. Je voudrais m'asseoir dessus. Ce n'est pas bien, je le sens, mais enfin, j'en ai envie, une de ces envies sans mesure qui, à tout prix, se satisfont. Elle convoite la gazelle pour en faire dans l'antre sauvage son lit, sa couche d'amour. Elle est cependant trop pure, trop naïve pour ne pas sentir, ne pas avouer le reproche que lui fait son cœur. Elle l'avoue, puis le surmonte, veut se tromper elle-même. Elle dit qu'elle se laisse prendre, ce sera notre amusement. Elle le dit et ne le croit point. On peut deviner aisément que le timide animal fuira et, sous le trait fatal, livrera avec sa vie l'objet du sensuel désir. Le pis, c'est que ce désir est partagé. Rama se trouble. Et, pour cette foi unique dans un si immense poème, il laisse échapper une parole fâcheuse. À son frère qui vient l'arrêter, il dit « Mais les rois tuent bien de leurs flèches les hôtes des bois, soit qu'ils en aiment la chair, soit aussi par amusement. Tout est au roi dans la forêt. » Il cache sous cette dureté sa faiblesse pour la bien-aimée. Il part, la laissant au frère qui ne doit pas la quitter. La fantastique gazelle échappe, longtemps le promène. Mais Sita a cru entendre Rama qui l'appelle au loin. « Grand Dieu, il est en péril !» Elle force le jeune frère de désobéir, d'aller au secours. Autre péché, d'amour encore. Hélas, il n'est que trop puni. Elle est seule, peu sûre d'elle-même, faible de sa double faute, de sa fatale illusion. La biche, c'est le démon, la voix, c'était le démon, le redoutable Ravana, le roi des mauvais esprits. Il arrive sous la figure d'un brahme, d'un bon anachorète. Il la flatte, il veut la séduire. Il finit par l'enlever dans son île inaccessible et gardée par l'océan. Le désespoir de Rama est sans bornes et tout de nature. Sa belle lumière de sagesse est voilée. Il ne voit plus. Il a toutes les douleurs de l'homme aggravées des doutes amers qui nous viennent en ces moments. Hélas, dit-il, que me sert d'avoir suivi le devoir? Rama n'a aucune connaissance de son origine divine, ne dit point « mon père, m'avez-vous abandonné ?» La passion du jeune Dieu perdrait de son mérite s'il avait la moindre idée qu'il est Dieu et fils de Dieu. Le poète a soin de lui cacher ce trop consolant mystère. il le laisse homme, ignorant de sa destinée, incertain de ce qu'est devenu sa cita, ne sachant que faire dans la ténébreuse horreur d'un naufrage où nulle lueur n'apparaît à l'horizon. La saison des pluies, vrai déluge dans l'Inde, a commencé, et les sauvages chaînes des Ghâts où s'est réfugié Rama sont engloutis de nuées. La terre pleure, et le ciel aussi. Les torrents descendent et grondent, les vents se lamentent, tous les éléments n'accordent leur deuil à celui de Rama. Dans leur lugubre concert, ils se sentent encore plus seuls. Où sont les parents, la cour, les sujets de ce fils de roi? Son frère est allé chercher une assistance lointaine. Mais plus l'homme est éloigné, plus s'empresse la nature, sympathique et compatissante. Tous les animaux, nos amis, qui, jadis moins dédaignés, approchaient sans défense, accourent autour de Rama, viennent s'offrir et se dévouer. Une sainte insurrection de tous les êtres se fait en faveur de l'être bon. Grande et sublime alliance, elle est un des points de foi que l'homme trouva dans son cœur aux premiers âges de la vie. Rama ne refuse pas à ses bons auxiliaires la gloire de combattre pour lui. Armé des puissances divines, sans doute, il pourrait vaincre seul. Mais c'est un bonheur pour eux de lui témoigner leur zèle et de faire sous lui la guerre sainte, une si glorieuse croisade. Le nom de soldat de Rama les honore et les relève. Nul brahme, nul saint rigi au fond des forêts solitaires, par prière ou macération, par l'absorption profonde qui les égale au Dieu même, ne pourraient se faire les mérites que vont acquérir ces simples dans leur élan pour Rama, pour la cause de la bonté, de la pitié, de la justice. Donc, l'auteur du Ramayana ouvre à tous l'armée. Il enrôle tous les êtres, les plus rudes et les plus sauvages, ours énormes ou singes géants. Ils ont tous la parole, une belle lucidité d'esprit. Tous, transfigurés par le cœur, par l'amour et par la foi, ils se précipitent au midi. La foi soulève les montagnes, elle dompte ou brave les mers. Quand tout ce monde sauvage, à la pointe de l'Indostan, voit la menace des flots qui le séparent de Ceylan, indigné, il arrache, jette, entasse les rochers, les forêts, un pont énorme se fait, elle passe la grande armée dans sa pompe barbare. D'en bas, stupéfait, vaincu, regarde l'océan Indien. Tout cela, c'est de l'histoire dans la forme dramatique. On le comprend aujourd'hui, Ceylan fut autrefois rattaché au continent. Et cette bataille aussi des animaux pour l'homme, elle est aussi historique. C'est ce qui se fit en effet, ce qui se fait toujours. Dans cette contrée surtout, sans eux, il n'eût pas vécu. Nommons d'abord par honneur en tête sa bonne nourrice, aimée, honorée, la vache sacrée qui fournit l'heureux aliment, favorable intermédiaire entre l'herbe insuffisante et la viande qui fait horreur. La vache, dont le lait, le beurre, fut longtemps l'hostie sacrée, elle seule, dans le grand voyage de la Bactriane à l'Inde, soutint le peuple primitif. Par elle, contre tant de ruines et de désolations, par cette nourrice féconde qui lui refait la terre sans cesse, il a vécu et vit toujours. Mais bien d'autres animaux, moins aimés et moins familiers, l'ont sauvé, le sauvent encore, parmi les 20 guerres différentes qui se font tout à la fois dans les forêts de l'Indostan. Ces gigantesques forêts sont peuplées à tout étage de leur énorme hauteur, mais peuplées de combattants. Au pied, souvent, les débris accumulés, fermentants, y font deux fléaux terribles, les plus meurtriers de tous, ou les émanations putrides, ou les insectes acharnés. Là, nulle vie n'eût été possible sans deux bienfaiteurs de l'Inde qu'on renie trop aujourd'hui. Le serpent, chasseur d'insectes, qui les atteint, les poursuit partout où l'oiseau n'atteint pas. Le vautour purificateur, le grand lutteur contre la mort, qui lui défend de se montrer, qui sans cesse la transforme, et de la mort fait la vie. Il est l'infatigable agent de la circulation divine. Aux parties un peu moins basses, au plein pied des forêts, dans les branches inférieures et les lianes qui parent la base de ces cathédrales en fleurs, partout la mort. Le lion, le tigre attendent là. Ce fut le salut de l'homme que, d'en haut, des étages supérieurs de ces voûtes végétales, il lui vint un auxiliaire. Frugivore, inoffensif, mais d'incalculable force, l'orangue, qui, en se jouant, tord le fer entre ses doigts, fit contre eux, par nécessité justement, la guerre de l'homme. Il s'arme d'une branche cassée, il s'en fait une massue, il s'associe et se ligue. À trois ou quatre, ils attaquent et tuent, bien plus que le tigre, l'éléphant qui veut leur défendre les fruits ou les cannes à sucre. L'orang est vraiment l'Hercule qui put combattre les monstres, terrible d'agilité, alternant de l'air à la terre, se balançant entre les arbres et volant d'un saut hardi. Il avait grand avantage sur toutes les bêtes d'en bas. Il les surveillait, planait. Le tigre d'un bond immense peut happer l'homme et le chien, mais sur sa tête est un danger. Le singe énorme qui le voit, le veille, et comme la foudre, peut tomber et l'écraser. Cet être si redoutable, non provoqué, n'a rien d'hostile. Au premier chant du Ramayana, on le voit qui passe en bande, comme les singes font aujourd'hui, conduit par son chef ou roi. Et comme Sita en a peur, Rama fait un signe au chef et l'écarte de la main. Tous passent docilement à côté. Il ne faut pas juger l'orang par ce que l'on voit aujourd'hui. Nul être n'a plus que le singe été effaré, aigri, perverti par la dureté de l'homme. Sa nervosité convulsive aujourd'hui nous fait horreur. Il a l'air d'un demi-fou, d'un épileptique. Mais dans ces temps reculés, où l'homme vivait avec lui en si grande familiarité, cet être imitateur, plus calme, dut se modeler sur l'Indien, devenir un singe grave et un serviteur docile. La femme surtout, la femme qui a sur lui tant de puissance, si elle le prenait tout petit, en fit le plus doux des esclaves. Une chose charme dans le Ramayana, c'est que, même ce qui est fictif l'est dans le sens de la nature. L'armée des singes qui combat pour Rama sous un chef si saint n'est pas moins fidèle à son caractère. Ce sont bien de vrais quadrumanes, gourmands, légers, capricieux, surtout têtes faibles et mobiles, libertines s'il faut le dire, peu délicate sur l'article des interdictions brahmaniques et des degrés de parenté. Ils ont un esprit agité, trouble, mais reviennent aisément. Ils ont des abattements excessifs et peu motivés, mais tout à coup se relèvent. De là, un charmant comique, aimable et sans malignité. Le favori du poète, le singe héros Hanuman, s'il a de grosses épaules, n'en est pas plus admirable. Dans son dévouement pour Rama, il enlève des monts sur son dos. Né de l'air, conçu du vent, un peu vain, il a tenté, voulu l'impossible. La forte mâchoire d'en bas, qui le rend un peu difforme, rappelle qu'encore enfant, il eut l'élan insensé de monter dans le soleil. Il tomba, et depuis lors, lui et d'après lui sa gente ont été marqués de ce signe. Ainsi, un léger sourire, mais bon, aimant, sympathique, se mêle partout au grand, au saint, au divin dans ce poème béni. Il ne faut pas se figurer que dans ce pays de lumière, le roi des démons, Ravana, est le moindre trait de la vilaine création du Moyen-Âge, le diable grotesque, ignoble, avec sa queue et ses cornes. Ravana est bien plus démon par sa noble et royale beauté, par son génie, sa science, sa grandeur. Il lit les Védas. Sa ville, la colossale et délicieuse Lanka, telle qu'on l'a décrit, dépasse de bien loin les Babylones et les Ninives. il a un merveilleux sérail, tout ouvert, point du tout gardé. Toute volupté y abonde. Le dangereux en ce démon, c'est son attraction immense. Tant d'amantes et tant d'amis. Il est violemment adoré. Il rayonne de l'éclat des arts et des splendeurs de la nature. Et par-dessus tout cela, il a l'art épouvantable de faire par la magie une antinature qui trompe des êtres éphémères, charmants, terribles à volonté. Et contre tant d'art, Rama n'amène avec lui que des simples, des êtres grossiers et sauvages, rien que la force du cœur, rien que la bonté, le droit. Et c'est ce qui le fera vaincre, c'est ce qui protège au sein même du palais de Ravana son infortuné Sita. Par sa gravité courageuse et sa résistance héroïque, elle se relève au niveau de l'indienne primitive, de la noble épouse védique que depuis 1000 ou 2000 ans nous avons déjà perdue. À travers ses côtés tragiques, le héros singe Hanuman est amusant et touchant. Son grand cœur, ses douces vertus, mêlées de petits ridicules, font à la fois rire et pleurer. C'est lui, en réalité, qui est l'Ulysse et l'Achille de cette guerre. Il ose seul pénétrer dans la terrible Lanka, dans le redouté sérail et jusqu'auprès de Sita. Son tendre respect la console. Plus que personne, il la délivre. Après la victoire, Rama le célèbre, le couronne. Et là, une grande chose arrive qui changera la nature. Par devant les deux armées, par devant les hommes et les dieux, Rama, Hanuman se sont embrassés. Qu'on ne parle plus de caste. Le poète se gardera bien de toucher à ce sujet. Mais réellement, la barrière est tombée, n'est plus désormais. La caste bête est supprimée. Comment subsisterait-il encore quelque chose des castes humaines? Le dernier des hommes peut dire « Hanuman m'a affranchi ». Ainsi crève le ciel étroit de la religion brahmanique. Toute scolastique sociale a fini. Le monde entier s'embrasse dans une immense fête. Mais en ce grand jour de la grâce, peut-il exister des méchants, des damnés? Non, le méchant fut un être négatif, un non-sens, un malentendu. Il a expié, il est pardonné. Le monstre n'était qu'un masque sous lequel une pauvre âme était captive d'un fatal enchantement. Frappée, la voilà délivrée. Elle s'élance, elle est heureuse et, foudroyée, remercie.